France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin deux historiens dans le grand entretien. Le premier est membre de l'Académie française. Il publie De la haine du juif aux éditions Bouquin. Le second est spécialiste de la Grande Guerre, maître de conférences à l'Université Paris 1 et cofondateur du comité de vigilance sur les usages publics de l'histoire. Ils répondront dans quelques instants à vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et sur l'application de France Inter. Pascal Horry, Nicolas Offenstadt, bonjour.
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 Et merci d'être avec nous ce matin. Dans cette journée doublement sous le signe de l'histoire qui va démarrer ce 11 novembre, marque d'abord la date anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il sera ensuite question de la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra à l'Arc de Triomphe puis au Mont Valérien, lieu de mémoire de la France libre, pour présider la cérémonie d'inhumation d'Hubert Germain, le dernier des compagnons de la libération, mort il y a un mois, à l'âge de 101 ans. Quel regard portez-vous, Pascal Horry, sur cette journée de grande épaisseur historique ?
Le regard déjà d'un historien qui est aussi un Français et qui constate que nous sommes de nouveau confrontés à une mémoire nationale qui est à la fois très continuiste. On a par rapport à d'autres pays, on n'a pas les interruptions de mémoire que par exemple la Pologne a pu connaître. Et du coup, en fait, nous sommes un vieux pays unitaire. Et dans nos débats, dans nos polémiques, dans nos peut-être guerres civiles symboliques et parfois réelles, nous sommes incroyablement unitaires. Et ça me frappe dans le regard des étrangers. Et le sommet de tout ça, ce sont les institutions de la Ve République qui font que nous sommes aussi, je me permets de le dire, la grande culture politique autoritaire d'Europe occidentale. Nous sommes le seul régime vraiment présidentiel. Dès qu'on met les pieds dans un de nos pays voisins, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, on est dans un autre monde. La France est spécifique.
Ah bah écoutez, ça vous ouvrez tous les dossiers.
Tous les dossiers sont sur la table.
Là, vous nous séchez un petit peu parce qu'on voulait commencer gentiment sur les commémorations.
Soyons méchants.
Alors commençons méchamment. Bon, on va revenir quand même sur les commémorations. Nicolas Offenstadt, vous avez quelque chose à dire sur la journée avant de parler, de passer directement à la campagne présidentielle et au débat actuel sur la scénographie comme sur le protocole, étape par étape. L'Élysée s'est inspirée du 11 novembre 45 quand De Gaulle a choisi d'honorer toutes les résistances. Que dit la symétrie de ces deux cérémonies à 76 ans des
Il y a deux points qui me paraissent importants. D'abord, il y a un débat qui est récurrent, qui est de dire, et ça rejoint un peu l'ouverture qu'a fait Pascal Horry tout à l'heure, que la France commémore trop. Il y a ce débat récurrent, on dit toujours, il y a trop de commémorations, le passé est trop présent, on passe trop de temps. Et je suis en profond désaccord avec ce point de vue, parce que pour moi, je maintiens que les commémorations sont un excellent moment démocratique et civique. Donc je pense qu'il faut en profiter, d'ailleurs on en profite dans les médias et ailleurs, pour parler d'histoire. Donc je pense qu'il faut défendre les commémorations, il n'y a pas de commémorite, comme on dit, il n'y a jamais trop de commémorations. La question c'est comment on les fait, est-ce qu'on les fait bien ou est-ce qu'on les fait mal, est-ce qu'on les fait de manière intelligente et collective ou du sommet de l'État. Ça c'est le premier point.
Mais juste sur ce premier point, et je vous interrogerai sur le second, mais par exemple là, quand on voit tous les hommes politiques défiler à Colombey-les-Deux-Églises pour la commémoration de la mort du général de Gaulle le 9 novembre, il y a trois jours, vous trouvez ça bien, vous, ça ?
Alors ça dépend ce qu'on en fait. L'aspect directement politique n'est pas le plus intéressant. En fait, moi, ce que je trouve passionnant, c'est la commémoration par le bas. En France, effectivement, il y a un côté spécifique dans le rapport au passé. Et ce qui est frappant, c'est de voir toutes les initiatives locales. C'est inimaginable ce qui se passe en France. C'est pas seulement les sommets de l'État, c'est pas seulement les ministres ou les responsables politiques. Vous avez partout des enseignants qui font des projets avec les élèves autour des commémorations. Vous avez des associations locales qui entretiennent les monuments. Vous avez des gens qui font de la généalogie, l'histoire de leur village, et qui profitent des commémorations pour, en quelque sorte, médiatiser ou rendre un peu plus visible cette histoire locale, nationale, familiale. Et ça, je trouve ça, cette vivacité intellectuelle de l'histoire en France, ça me paraît quelque chose de positif. Avec une réserve, si vous me permettez.
Allez-y.
Avec une réserve qui est importante, et je trouve que c'est le risque de telle journée, c'est que moi je suis pour des commémorations qui soient transparentes et claires, c'est-à-dire où on ne confonde pas toutes les périodes. Et depuis la loi de 2012, vous en souvenez peut-être, le 11 novembre n'est plus la commémoration exclusive de la Grande Guerre, c'est celle de tous les morts pour la France. Et là, j'ai une question historique et aussi citoyenne, c'est que je crois que la commémoration doit être pédagogique. Pour nous tous, hein, pas simplement pour les élèves, mais c'est un moment citoyen. Et si vous mélangez toutes les guerres, si vous construisez un grand récit où finalement le même jour vous parlez de la Grande Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, des opérations extérieures et que tout le monde est mort pour la même chose, je pense que c'est un risque de confusion. Et cette journée n'y échappe pas. Donc moi je serais pour que le 11 novembre soit le grand moment dédié, toujours, à la guerre de 14, comme une interrogation civique collective. Ça suffit, il y a assez à dire et à réfléchir sur 14-18.
Pas de commémorite, mais attention à la confusion, Pascal Horry.
La réaction de Nicolas est très significative, et celle effectivement d'un historien patenté comme je le suis, c'est-à-dire qu'on voudrait maintenir une forme de rationalité tout ça, alors que on a quand même mis du temps à considérer en sciences politiques comme en histoire que l'émotionnel jouait un très grand rôle, que par exemple d'ailleurs il y a du symbolique complètement émotionnel à toutes les étapes des commémorations et aussi des célébrations, d'ailleurs faut pas confondre commémoration et célébration. Et moi je suis très sceptique sur la capacité pédagogique au final de ces commémorations. Et que ce que on appelle, ou ce que Nicolas appelle confusion, c'est le simple constat que on est toujours dans le présent, et ce sont les intérêts du présent, les intérêts des différents acteurs politiques, sans exception, qui pratiquent cette, entre guillemets, confusion. Je crois profondément qu'on enseigne l'histoire, mais que l'histoire n'enseigne rien. Parce que les sociétés sont dans le présent.
Non, mais elle fait réfléchir.
Elle
fait réfléchir.
On croit qu'elle fait réfléchir.
Quand je dis que la commémoration doit être pédagogique, je dis pas du tout qu'il faut que les historiens aillent dans toutes les radios pour raconter l'histoire de la guerre de 14.
Une seule radio suffira.
Mais au contraire, ce soit un sujet de débat. Et quand Pascal Horry dit qu'il faut que les commémorations relèvent évidemment l'émotion, c'est tout à fait juste. Mais je pense que, par exemple, la guerre de 14, on le sait, a encore une résonance émotionnelle extraordinairement forte en France. On l'a vu pendant le centenaire et encore aujourd'hui, il y a des tas de gens qui se saisissent de cette mémoire-là. Donc on peut, avec la guerre de 14, faire une commémoration tout en laissant l'émotion.
Quel est le résultat en termes de politique d'aujourd'hui, puisque en fait c'est un acte politique, la commémoration.
On vient à aujourd'hui. Pascal Horry, Nicolas Offenstadt, on voulait aussi vous entendre tous les deux ce matin, parce que depuis la rentrée et le début de la campagne présidentielle, il est beaucoup question de l'histoire, de la guerre d'Algérie, on va y venir, mais plus encore de la Deuxième Guerre mondiale. Éric Zemmour, sur Pétain, sur Papon, sur Dreyfus, défend une ligne qui est au rebours du consensus des historiens. Avant de vous faire commenter les différents points, est-ce que vous auriez pu imaginez un jour, comme historien, vivre une campagne électorale présidentielle dont certains thèmes seraient Vichy, Pétain et l'affaire Dreyfus? Pascal Horry.
Honnêtement, non. Je dois le reconnaître. Je pensais en particulier que le rapport à la Seconde Guerre mondiale avait été structurant dans les années 70. J'en étais témoin, modestement acteur, etc. Et je pensais que, en effet, des actes symboliques comme les grands procès, l'historiographie qui, vous avez prononcé le mot de consensus, et ça vaut pour l'affaire Dreyfus aussi, bon, c'est calé. Je pensais quand même que ça, c'était acquis sans illusion. Je maintiens sur le fait que les sociétés étant dans le présent, plus on vient à leur dire, vous savez, dans le passé, il y a eu le goulag ou il y a eu la Shoah, moins c'est pertinent. Mais au moins, les historiens faisaient leur boulot. Et là, on voit bien que non.
Qu'est-ce qui se passe là? Comment vous analysez ce moment?
Vraisemblablement, quand même, la distance chronologique est quand même redoutable. Je veux dire, la commémoration, elle est quand même là pour réactiver des feux qui s'éteignent quand même inéluctablement. Et d'autres intérêts d'aujourd'hui, par exemple, l'obsession face aux migrants, on n'entre pas dans le détail, vous voyez ce que je veux dire. C'est une obsession d'aujourd'hui qui va submerger toutes les considérations sur le melting pot français, etc.
Nicolas Offenstadt, même question. Qu'est-ce que ça dit de la France de 2021 qu'on soit ainsi confronté depuis deux ou trois mois à la réouverture ou à la déconstruction de certaines des pages de notre histoire, de certaines de ces pages les plus sombres? Sommes-nous à ce point un pays en crise, un pays malade pour en être là, pour parler davantage du maréchal Pétain aujourd'hui que d'autres questions plus actuelles, si j'ose dire?
Oui, alors il faut rappeler quand même, il y a d'autres pays où l'histoire est quand même un enjeu extrêmement lourd. On pense aux Polonais qui évidemment ont un rapport aussi extrêmement tendu au passé. Donc il y a bien sûr d'autres exemples. Je pense qu'il y a un diagnostic qui est fait par ceux qui instrumentalisent l'histoire, parce qu'on parle pas tant d'histoire que de son instrumentalisation. Et j'y reviendrai dans un instant. Je pense que le diagnostic est que les Français n'auraient plus de repères. Et donc, du coup, il faut les ramener, en quelque sorte, à ce qui paraissait le plus minimal, le plus simple, les grands hommes, les grandes figures, l'histoire de France. C'est l'idée de dire que dans ce monde où, finalement, les échelles sont brouillées, les échelles, c'est quoi? C'est le monde, évidemment, la mondialisation, la globalisation, c'est l'Europe, c'est le rôle nouveau des régions. Donc, on a l'image que, finalement, on ne sait plus à quelle échelle on vit. Ça, c'est quelque chose d'important.
Et d'où donc, la du passion coup, de Gaulle.
D'où, évidemment,
on se raccroche au général de Gaulle.
Exactement.
Comme un...
Donc, finalement, le diagnostic étant fait, c'est pas le mien, mais c'est celui que je vois. Redonnons aux Français, ce qui est souvent les prendre quand même pour des idiots, redonnons le roman national le plus élémentaire, le plus simple, les grandes dates, les grands hommes, ce que tout le monde connaît, pour les rassurer. Et donc c'est un usage de l'histoire qui me paraît extrêmement toxique, hein, puisque ce serait une histoire qui apaise, qui rassure, avec son plus petit dénominateur commun en quelque sorte.
Alors, il ne s'agit pas ce matin de faire de la politique, mais de vous confronter, messieurs les historiens, à ce que dit Éric Zemmour. Commençons d'abord par Pétain, au cœur des pages les plus controversées de son livre « Le suicide français » publié en 2014, cette thèse qui veut que les lois antisémites de Vichy n'avaient pas d'objectif exterminatoire. Il la maintient et voici comment il la formule aujourd'hui. Ce sont les Allemands qui ont introduit cette logique exterminatrice. Vichy a protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers. C'est facile de dire 50 ans après que la France est coupable. La France n'est pas coupable, c'est l'Allemagne qui est coupable. Il ajoute, Vichy a protéger les Juifs français et donner les Juifs étrangers. Historiquement, que répondez-vous, Pascal Horry, à ces propos ?
C'est pas Pascal Horry qui répond, c'est le consensus des historiens depuis les années 1970, des historiens d'ailleurs qui ne sont pas que des Français. On a souvent cité le nom de Robert Paxton, parmi d'autres d'ailleurs. Premièrement, il est clair que les Allemands veulent Pétain, parce qu'ils veulent un chef prestigieux qui va permettre de gérer la France, dont il ne faut pas oublier qu'elle est un pays qui s'est retiré du combat direct par l'armistice, mais la guerre continue, et géopolitiquement parlant, il vaut mieux avoir un Pétain qu'un Doriot, par exemple, qu'un fasciste à la tête de la France, qui serait beaucoup plus clivant. Donc ça, c'est la lourde responsabilité de Pétain qui accepte de jouer ce rôle-là et qui va le jouer jusqu'au bout. Et en ce qui concerne le rapport aux Juifs, ça veut dire que la mise en place des deux premiers statuts, des deux statuts d'ailleurs des Juifs, est une initiative française. Ça a été l'apport de Paxton et d'autres en disant, mais parce que Paxton et les autres, faut pas trop paxtoniser, quoi. Il y a eu quelques autres historiens qui ont travaillé avant ou après lui dans la même direction, à travailler sur les archives allemandes. C'est la grande différence avec Robert Aron, hein, le glaive et le bouclier, etc. Là, les archives allemandes étaient accablantes pour les Français. Et il n'y a pas plus extraordinaire que le passage de relais entre le premier commissaire général aux questions juives, Xavier Vallat, qui est effectivement dans la continuité axée action française du style, il y a quand même des Israélites par rapport aux Juifs, les Juifs étrangers, alors n'en parlons même pas, et le successeur, mais Pétain est toujours là, qui s'appelle Darquier de Pellepoix, et qui est vraiment dans une logique exterminatrice. Mmh. Et c'est le maréchal Pétain qui couvre tout ça. C'est ça qui est fondamental.
Vichy a protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers. Dire ça, est-ce que c'est historiquement faux ? Nicolas Offenstadt.
Oui, et surtout, je voudrais qu'on revienne au débat. Si Éric Zemmour avait une thèse neuve sur un sujet, comme l'a rappelé Pascal Horry, où les historiens travaillent depuis des décennies, il faudrait qu'il l'argumente. Il n'y a aucun argument, il n'y a aucun document qui est donné. Il faut rappeler quand même ce que c'est que le métier d'historien. Si vous voulez nous dire quelque chose de nouveau...
Le glaive et le bouclier.
Alors, je vais revenir, si vous voulez, à cette thèse, mais surtout, il y a une manière de faire de l'histoire. Qu'on soit historien de métier ou historien amateur, peu importe, c'est pas une question de profession ou de casquette. C'est une question de manière de travailler. Si vous avez une thèse nouvelle sur Vichy et les Juifs, si vous voulez dire quelque chose de nouveau, il faut faire le travail qui a été fait pendant des décennies et il faut nous montrer des preuves. Il nous faut nous montrer des documents. Or, c'est du vent, ce que dit Éric Zemmour. C'est du vent, ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur aucun travail de fond. Ça ne repose sur aucun travail nouveau. Ça repose sur aucune découverte documentaire.
C'est donc du révisionnisme.
Le révisionnisme n'est pas mauvais. Comme je vous l'ai dit, c'est le travail des historiens. S'il avait fait un travail nouveau et qu'il nous avait dit, voilà des documents. Mais en fait, il va contre le consensus des historiens de manière totalement, simpliste et simplement sur son point de vue. C'est un point de vue qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, c'était celui des pétainistes. Il ne fait que répéter le mémoire en défense des pétainistes en disant « on a fait le moindre mal ». Donc c'est ça le fond de l'affaire. Ce n'est pas un historien, il ne travaille pas comme les historiens, il n'apporte rien de neuf, il exprime une opinion qui est fondée sur rien. Donc il n'y a aucune raison, d'une certaine manière, même de la commenter historiquement. C'est pas une thèse nouvelle, hein, c'est juste un point de vue politique,
Pascal
une instrumentalisation politique.
Mais il fait, d'ailleurs c'est visiblement son job actuellement, il fait de la politique. Et l'objectif est en 2021, pas en 1940, dans sa perspective.
Quel est l'objectif ?
C'est d'abord vraisemblablement de contribué à établir des ponts entre une forme d'extrême droite et une forme de droite classique. Bon, mais plus subtilement, c'est être non-conformiste. Parce que n'oublions quand même pas, ici nous sommes dans un média institué, mais il y a aussi des réseaux sociaux. Et il y a un certain nombre de Français, et pas que de Français, hein, n'oublions pas que c'est un problème mondial, qui n'écoutent plus les médias institués et qui sont dans leur tribu. Hein, c'est une culture de tribu. Il est évident que le non-conformisme d'un Zemmour qui dit « mais attendez, justement, il y a un consensus, et bien moi je me distingue du consensus », ça peut être très efficace pour se positionner comme celui qui ne se laisse pas avoir par l'institution. C'est toujours l'idée qu'il y a un système. Alors le système, il est institutionnel politique, mais il est aussi culturel, historiographique. Le système, et vous aurez toujours dans les sociétés contemporaines, une partie de la société, qu'on pourrait réunir dans une société de ressentiment, mais qui n'écoutera surtout pas. Moi je me rappelle, dans Mein Kampf, Hitler dit, à propos des protocoles des sages de Sion, dont on savait à l'époque que c'était des faux. Il dit, la Frankfurter Zeitung, donc, je dirais le Figaro de l'époque, dirigé par des juifs. Dixit Hitler, la Frankfurter Zeitung dit que c'est un faux. Eh ben, c'est bien la preuve que c'est authentique. Mais voilà, donc d'une certaine
façon, on a des preuves, des documents aujourd'hui, pour parler scientifiquement, y a-t-il des preuves écrites de signées par Pétain, signées par Laval, qui montrent que non, il n'a pas protégé les juifs français.
Mais la question n'est pas qu'il y ait des preuves. Il y a la logique de la politique de Vichy, de la continuité de la politique de Vichy avec les contradictions entre Laval et Pétain. Mais c'est le régime. Pour simplifier, le régime va se durcir sans cesse. En 1944, moi je soutiens que c'est devenu un régime fasciste, ce qui n'est pas du tout en 40. Il est en train de se fasciser. Mais par ailleurs, en ce qui concerne les juifs, c'est une sorte d'index pour tout le reste. Ben, il est clair qu'il y a radicalisation. Les rafles de 42 sont très claires là-dessus. Là, la distinction entre mon étudiant Laurent Joly l'a bien montré, donc je reprends ses conclusions. La distinction entre juifs français et juifs étrangers fonctionne déjà plus au moment de la rafle du Veldiv. Et on voit bien la logique dans laquelle on va, et d'où Darquier de Pellepoix.
Nicolas Hoffenstadt.
Il y a une chose tout simple, c'est que la politique de collaboration qui est voulue par le régime du maréchal Pétain sert l'Allemagne dans son ensemble, puisque de toute façon, l'administration allemande n'était pas capable de mettre en place tout ce que Vichy a mis en place. Donc, si vous voulez, le cadre est fondamental. Donc, toute la politique antisémite de Vichy sert les Allemands. Les Allemands n'avaient pas les moyens et n'avaient pas la possibilité d'avoir autant de fonctionnaires, de soldats, de policiers pour mettre en place la politique antisémite. Donc, c'est un bras armé des nazis, le régime de Vichy, dans toute sa politique antisémite. Et c'est le régime de Vichy qui a mis les cadres de cette politique antisémite. Les juifs français sont visés dès 1940 par le statut des juifs.
C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que
les juifs français sont visés d'emblée.
Ils sont exclus de la communauté nationale dès 1940. Donc tout est faux dans ce qu'il raconte. Les juifs français sont des cibles dès 1940. Le régime de Vichy est au service des Allemands. Il facilite la tâche des Allemands, puisqu'il collabore et qu'il met au service des Allemands son administration et sa police. Donc il n'y a pas à discuter. Et d'autre part, et Pascal y a insisté, c'est pour ça qu'on fait pas de l'histoire avec Zemmour. Je vous réponds parce que vous le demandez, mais d'une certaine manière, c'est pas de l'histoire. Tout ça, on le sait depuis des décennies. Laurent Joly l'a rappelé sur de nombreuses antennes, c'est le meilleur spécialiste. Il a montré mieux encore
c'est
que ce que je viens de dire.
C'est pas parce qu'on ne fait pas d'histoire que l'histoire n'est pas attaquée.
Oui,
et que
absolument.
Vous, comme savant et membre de l'institution académique, n'êtes pas attaqué et que ça tremble sur, peut-être pas sur vos bases, mais en tout cas, vous êtes pris à partie.
Oui,
vous êtes
pris à partie. Ça ne peut trembler que si on croit que la mission de l'histoire est d'éclairer le peuple avec un grand P. Ça fonctionne jamais comme ça. Les sociétés sont vraiment dans leurs intérêts contemporains. Et donc, la mondialisation, la crise d'identité, etc., c'est ça qui est sur la table et pas le passé. Nous passons notre temps, Nicolas, moi et les autres, à dire « mais non, on ne parle pas du passé, on vous parle du temps ». Mais on ne nous entend pas et on ne nous entendra jamais. N'y comptez pas un seul instant. Sommes dans le présent.
Donc vous avez perdu d'une certaine manière sur ce qui est de la bataille politique aujourd'hui qui se joue pour influencer les esprits aussi.
Mais je ne crois pas qu'on puisse...
C'est une bataille culturelle.
C'est une bataille culturelle qui se joue.
Influencer les esprits, sauf peut-être à la marge. Parce que les élections, ça se gagne parfois à la marge. Mais j'ajoute que, j'y reviens, les institutions françaises étant les plus clivantes d'Europe occidentale, le second tour des élections présidentielles étant quand même clair, c'est très bizarre. Maintenir deux candidats, pas trois, pas quatre, etc. Nous sommes dans une société où le clivage est entretenu et évidemment, le candidat, j'hésite quand même à parler de lui nommément à chaque fois, le candidat dont nous parlons cultive le clivage parce que ça l'arrange. N'oublions pas que ce que nous sommes en train de dire, ça l'arrange en ce moment.
Nicolas Offenstadt, oui. Sur l'histoire qui Pascal Horry a bien dit, elle tremble pas, mais oui. Sur le fait que vous soyez sommé de répondre.
Elle vibre, oui. Mais elle tremble
si
pas.
Si vous regardez l'ensemble des écrits de Zemmour, vous voyez que les historiens sont une de ses cibles favorites. Pourquoi ? Parce que, avec toutes nos différences, avec nos faiblesses aussi, on défend quand même un idéal de vérité. On défend un idéal de vérité qui est compliqué. La vérité n'est pas simple. En histoire, il y a des contradictions, il y a des choses qui sont difficiles à montrer. Et cet idéal de vérité, il le bafoue en permanence. Et il fait donc de l'histoire, effectivement, une arme politique. Et donc, c'est pour ça que les historiens sont ses ennemis. Il le dit clairement dans tous ses livres. Les historiens professionnels, il faut s'en débarrasser. En fait, il veut pas se débarrasser des historiens comme corporation, il veut se débarrasser de la vérité, en fait.
Et notamment c'est là où... ce qu'il appelle la doxa paxton.
Voilà. Mais il n'y a pas de doxa. Les historiens travaillent, ils discutent, il y a des débats. Ça, c'est, ça fait partie. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on est révisionniste?
Doxa dans tous les domaines. Pour le virus, il y a aussi une lutte contre la doxa. C'est très cohérent.
Et je voudrais revenir, pour vous montrer quand même que l'ambition est claire depuis longtemps, c'est un article d'Éric Zemmour dans Le Figaro en novembre 2013 qui est intitulé « L'histoire comme arme politique ». Donc effectivement, du passé, de la compréhension du passé comme un instrument de réflexion civique, il n'a cure. Ce qui l'intéresse, c'est de faire du passé une arme politique. C'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi sur le Moyen-Âge, il raconte n'importe quoi sur Vichy, mais aussi sur la Grande Guerre. Il raconte des choses sur la Grande Guerre, mais ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. Je l'ai dit, il ne passerait pas une demi-première année d'histoire avec ses livres. Et voilà comment il explique les choses. L'histoire, c'est une arme politique. Et je le cite, « L'histoire... arraché de gré ou de force aux historiens professionnels. » C'est génial, pour faire de l'histoire, il faut pas être historien. « L'histoire, arrachée de gré ou de force aux historiens professionnels, est en train de redevenir l'arme politique qu'elle fut à la veille de la Révolution, et plus encore au 19e. »
Parce que ce non-historien est obsédé par l'histoire.
Pascal Horry.
Effectivement,
ça, il a le droit, si j'ose dire. On a le droit de ne pas être historien
pas
et d'aimer passionnément l'histoire.
Non, c'est pas l'histoire, c'est l'histoire comme arme.
Non mais moi je lui rends presque hommage, contrairement à ce que vous pourriez penser. Non, c'est-à-dire qu'il a compris l'importance symbolique de ça, mais on est dans le symbole. La question de la vérité et de la réalité est secondaire. Et ça a toujours été secondaire, c'est pas propre à notre époque.
Un mot sur l'une des assertions d'Éric Zemmour à propos du capitaine Dreyfus. Je cite, beaucoup étaient prêts à dire Dreyfus innocent, même si c'est trouble cette histoire aussi. Quelques jours plus tard, il explique à propos des expertises mensongères qui ont accablé Dreyfus, que l'on ne saura jamais. Et à propos de l'innocence de Dreyfus, il estime que ce n'est pas évident et que Dreyfus n'était pas attaqué tellement en tant que juif, mais en tant qu'allemand. Comment recevez-vous ces propos, Pascal Horry ?
Alors, si on fait une gradation dans les énormités d'Éric Zemmour, pour moi, c'est pour l'instant, en attendant mieux, parce que je pense qu'il en a d'autres dans sa besace, c'est la plus extraordinaire.
Pourquoi ?
Parce que très vite, on l'a vu en pleine affaire Dreyfus, dès 1898, etc., il était clair qu'il y avait des faux. Qu'on avait condamné Dreyfus sur des faux, d'ailleurs non communiqués à la défense, etc. On a très vite repéré le coupable, qui est Esterhazy. Cette question ne pouvait plus être vraiment remise en question. On pouvait éventuellement se demander quelle était la part de responsabilité de l'état-major, etc. Mais Dreyfus, en tant que tel, était innocent. Et bien entendu, c'est sa qualité de juif. Alors, entre parenthèses, il faut remarquer qu'un officier juif qui parvient à ses fonctions d'état-major, c'est le signe qu'on était le pays de l'émancipation, parce qu'en Allemagne, vous auriez eu beaucoup plus de problèmes. Donc, il faut bien voir que la France était remarquablement ouverte aux juifs par rapport à d'autres pays comparables. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que les Dreyfusards ont gagné.
Nicolas Offenstadt, un dernier mot.
Oui, c'est en fait une énormité de plus. Mais vous savez, quand vous reprenez ces livres, vous en avez d'autres. Je vous disais, puisqu'on est le 11 novembre, laissez-moi vous en dire une énorme sur 14-18. Il nous explique que les mutineries 17, ce sont des soldats qui ont volé la victoire. Ils se révoltent pas contre la guerre, contre l'horreur de ce qui vit dans les tranchées, contre l'échec des offensives, mais ils se révoltent parce que, soi-disant, on aurait arrêté la grande offensive du chemin des dames. C'est une énormité. Une de plus. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui tient dans son discours historique, si ce n'est d'en faire une arme pour
le
présent.
C'est un grand révisionniste. C'est ce qui fait son succès.
Merci à tous les deux. Pascal Horry, de La haine du juif, sous-titre essai historique publié aux éditions Bouquins. Merci également à vous, Nicolas Offenstadt. France Inter.